Une thèse. Un détail. C'est Détails de thèse. Épisode 2. Sensibilité.
Dans cet épisode de Détails de thèse, nous allons parler d'allergie, quand le système immunitaire fait des excès de zèle. Avec Éléonore Dijoux, doctorante sous la direction du professeur Antoine Magnan, du docteur Gervaise Laurent et du docteur Grégory Bouchot.
Alors, mon sujet de thèse, en fait, je m'intéresse à comment on devient allergique. Allergique respiratoire, donc ça, en fait, c'est l'asthme allergique qui touche beaucoup de personnes dans le monde, en France. L'asthme allergique, on le connaît, hein, c'est la petite crise d'asthme qui peut devenir très grosse. Et le problème, c'est que cette maladie est très diversifiée, on observe beaucoup de types et on ne comprend pas très bien comment on en arrive à ces différents types.
Et par quel parcours en êtes-vous arrivé là ?
Alors, j'ai fait un parcours totalement classique de biologie. Enfin, après un petit passage, un petit détour en médecine, je me suis découvert une passion pour la biologie. Donc, j'ai fait une licence à l'Université d'Orléans, une licence de biologie biochimie. Ensuite, je suis arrivée à Nantes pour faire le master BBRT, biotechnologie, biologie et recherche thérapeutique. Et moi, ce qui m'intéressait, j'ai pris en spécialité une spécialité qui s'appelle axe intestin-cerveau, qui commençait déjà à parler un petit peu de microbiote et de ce lien qu'on peut avoir entre le microbiote intestinal et tous les autres organes du corps. C'est là que j'ai découvert aussi MiBioGate et que ce consortium m'a pas mal attirée. Mais en Master 2, je ne faisais pas du tout d'asthme allergique, je ne faisais pas du tout de microbiote. Par contre, je m'intéressais au métabolisme, donc au métabolisme circadien, dans une autre équipe qui est à l'Institut du Thorax. Et arrivé à la fin de mon Master 2, je voulais absolument faire une thèse, mais malheureusement, j'avais raté les concours de l'école doctorale. Donc j'étais sur liste d'attente et il n'y avait plus de place. Et du coup, je me suis dit, il va falloir trouver un autre sujet qui me passionne. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré Grégory, qui a commencé à me parler de son sujet. Donc, j'ai eu plusieurs entretiens, j'ai rencontré plein d'autres chercheurs qui m'ont parlé de leur sujet. Et en fait, quand Grégory m'a parlé de son sujet, il m'a dit « Oui, c'est de l'asthme allergique, on va regarder le microbiote, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on devient allergique. » Là, j'ai eu un gros coup de cœur. Enfin, il m'a mis des paillettes dans les yeux. Gros coup de cœur pour le sujet. Et là, il me fait « En plus, c'est dans MiBioGate. » Du coup, bon, bah, c'était bingo, jackpot. Et je lui dis « Bah, écoute, j'arrive, je suis là en septembre pour commencer. » Et puis, septembre 2018, donc il y a quasiment 3 ans maintenant, je suis arrivée pour travailler dans l'équipe 3 à l'Institut du Thorax sous l'encadrement de Grégory, qui est aujourd'hui mon directeur.
Donc une thèse qui s'est faite un petit peu au hasard et qui est rattachée à un sujet qu'on peut connaître un petit peu, hélas, parfois dans la vie de tous les jours. C'est ça qui vous a particulièrement attirée ?
Alors, au début, ce n'est pas le mot asthme qui m'a attirée, parce que moi, je me suis dit, wow, l'asthme, un peu comme tout le monde, et puis comme les gens qui vont m'écouter, ils vont se dire, ouais, l'asthme, ça n'a pas trop d'intérêt, on sait ce que c'est, on a du mal à respirer, on prend un peu de Ventoline, et puis on passe à autre chose. Et en fait, le coup de cœur, c'est quand Grégory m'a dit, mais en fait, l'asthme, tu sais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, il en existe plein de types différents. Alors là, déjà, ah bon, il existe autre chose que mon pote qui n'arrive pas à finir son cross à l'école. Bah, il m'a expliqué, bah oui, on a l'asthme de l'enfant, on a l'asthme de l'adulte, on a l'asthme de l'obèse, on a l'asthme à l'effort, on a l'asthme qui est allergique, mais allergique, celui allergique au poil de chat, celui qui va être allergique au pollen, on a l'asthme qui est allergique aux acariens, donc celui qui nous intéressait, mais dans autre l'asthme allergique, on a aussi les allergies, donc allergies alimentaires, allergies respiratoires, les rhinites. Ah mais en fait, mais il y a plein de choses et l'asthme, en fait, je ne le connais pas du tout. Et en fait, c'est hyper intéressant. Donc, c'est plus... C'était pas moi la connaissance de ce que j'en avais, parce qu'en fait, c'était plus le côté... Mais en fait, je me rends compte que je ne connais pas du tout cette pathologie. Il y a des origines qui sont très diverses. Et c'est ça qui m'a attirée. C'était le défi d'en apprendre plus sur une nouvelle pathologie qui, en fait, était beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraissait.
Donc, des asthmes différents, des déclencheurs d'asthme et de crises d'asthme différents. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut identifier si ça vient d'un acarien, comme dans le cadre de votre thèse, ou d'un produit ménager ou...
Le déclencheur, enfin, au niveau clinique, les médecins en fait, font des tests. Donc, quand c'est de l'asthme allergique, ils vont tout simplement suspecter. Ils vont envoyer quelqu'un sur place pour regarder l'environnement de la personne. Est-ce qu'elle vit dans un environnement sain? Est-ce qu'il y a des champignons sur les murs, des moisissures qui pourraient provoquer les crises? Quelles sont les habitudes de cette personne? Quand est-ce qu'elle déclenche ses crises? Est-ce qu'elle déclenche ses crises le matin au réveil ou le soir en se couchant? Puisqu'on sait que les acariens sont dans le lit. Donc, ça peut être un facteur déclenchant de la crise. Au moment où on va se coucher, on prend une belle bouffée d'acariens qui sont dans les oreillers. Donc, les médecins vont faire toute une enquête pour essayer de déterminer le facteur déclenchant des crises. Des fois, ça va être très simple. Ça va dire, je vais courir, je vais faire mon footing et là, crise d'asthme. Voilà, après, on va avoir des degrés de sévérité qui vont varier. Donc, les médecins font toute leur enquête pour essayer d'éclaircir le déclencheur de la crise d'asthme. Et concernant tout ce qui est polluant extérieur, est-ce qu'on peut vraiment parler d'éléments déclencheurs de la crise ou d'éléments qui prédisposent? Parce que ça va rentrer dans les facteurs environnementaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'allergie, en général, elle se découpe en deux phases. Il y a une phase qu'on appelle la sensibilisation, c'est la première phase, c'est celle où on prépare notre corps en fait, à réagir. Donc le système immunitaire perd la boule, il va reconnaître des éléments qui ont toujours été autour de nous. Un jour, il va décider qu'il les reconnaît comme éléments de danger. Donc il va créer une réaction contre cet élément. Donc dans le cas de l'allergie, cet élément, on l'appelle l'allergène. Donc ça peut être l'acarien, par exemple. Et la deuxième phase, c'est celle de la crise d'asthme. On est là, le corps il est prêt à réagir, à créer une inflammation. Et au moment où on va être en contact avec cet allergène, là, on va déclencher la crise. Le corps il est tellement prêt, l'armée immunitaire elle est tellement présente, l'inflammation est tellement grande, qu'il faut juste mettre la petite poussière d'acarien pour déclencher la bombe et la crise d'asthme. Et en fait, cette phase de sensibilisation qui est la première, nous, ce qu'on aimerait comprendre, c'est pourquoi le système immunitaire, il perd la boule. Et là, il y a plein d'hypothèses, dont les facteurs environnementaux et la pollution, qui d'ailleurs sont vraiment mises en cause dans plein d'études. Hein. Des études qui montrent que l'exposition aux particules fines, au diesel, par exemple avec des enfants qui vivent dans des maisons qui sont collées à des grandes routes, donc très très exposées à ces particules, et ont tendance à développer plus de maladies allergiques, dont l'asthme allergique. Donc ça, il y en a plein qui le montrent. Après, il y a d'autres types de polluants autres que les particules fines. Ça peut être des allergènes qui se retrouvent dans des savons. Dans un savon, vous avez des détergents, donc on va abîmer la peau. L'allergène, s'il se trouve dans ce savon, il va passer votre peau, qui est normalement une barrière protectrice où rien ne doit rentrer. Et là, le système immunitaire le voit, lui dit « Pourquoi toi t'es là? Comment ça se fait que t'es passé par là ?» Il va le reconnaître, il va dire « Moi, je te veux pas dans mon corps, t'es pas passé par la bonne voie d'entrée. » Donc, il va réagir, il va créer une réaction contre cet allergène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une autre hypothèse, en plus de ces facteurs environnementaux, c'est les voies de sensibilisation. Les voies de sensibilisation, c'est tout simplement toutes les voies d'entrée qu'on peut avoir dans le corps. Donc, dans votre corps, en fait, il y a plein de barrières. Les barrières, ce sont des surfaces qui sont à l'interface entre l'extérieur et l'intérieur de notre corps. C'est une muraille. Normalement, ça permet de trier ce qui rentre et ce qui ressort. Donc, dans les barrières, on va retrouver la peau. Donc, ça, c'est ce que je détaillais juste avant, qui est censée normalement être bien, pas ouverte, pas poreuse, et puis normalement ne laisser rien entrer, mais juste sortir.
Littéralement une barrière, du coup, qui nous protège de l'environnement extérieur.
Exactement, une barrière imperméable, comme un anorak. La pluie, elle passe pas. Et on a d'autres barrières, les barrières pulmonaires, qui, elles, vont laisser passer juste les gaz respiratoires, par exemple l'oxygène, qui est bien connu, et qui va laisser sortir le gaz carbonique, le CO2. Et une autre barrière, ça va être la barrière intestinale, donc qui normalement permet les échanges. La barrière intestinale, on mange, on récupère les nutriments dont on a besoin via la barrière intestinale, ça rentre, et puis et normalement, les virus ne sont pas censés rentrer, ou les allergènes non plus. Mais quand ces barrières sont abîmées, notamment par des polluants, donc facteurs extérieurs, facteurs environnementaux, il se peut qu'elles ne fassent pas correctement, qu'elles ne puissent pas faire correctement leur travail, et du coup qu'elles laissent rentrer des allergènes ou des agents extérieurs.
Et vous faites des expériences sur des tissus de ces barrières, par exemple, pour comprendre comment les échanges se font?
Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on va regarder, on va regarder plein de choses. On va regarder si, en fonction de la voie par laquelle on donne l'acarien, On met la carnia, est-ce que si je le mets sur la peau, est-ce que si je le donne prioritairement par voie orale, comme si on le mangeait, ou est-ce que je le donne par voie respiratoire, comme si bah, je le respirais, hein, le petit nuage d'acarien qui vient dans mon nez et qui passe dans mes poumons. Est-ce qu'on a une différence? C'est-à-dire, est-ce que, suivant la voie par laquelle il passe pour faire la sensibilisation, donc la première phase, là où on devient allergique, est-ce que je vais avoir une différence? Est-ce que si je passe par la peau, c'est allergénisant? Est-ce que si je passe par la voie orale, est-ce que c'est plus ou moins allergénisant? Il y a des études qui tendent plutôt à dire que par voie orale, justement, ce serait plutôt tolérogène. Donc, on aurait plutôt tendance à ne pas développer l'allergie, mais justement à être en contact avec l'allergène et à dire « Ok, toi, je te reconnais, t'es cool, t'es dans mon environnement et je ne te reconnais pas comme un méchant. » Alors que pour la voie pulmonaire, donc respiratoire, ce serait aussi le contraire, un peu comme pour la voie, comme pour la peau.
Donc c'est vraiment à viser, non pas thérapeutique, mais préventive, pour éviter de devenir tout simplement asthmatique, en comprenant mieux les échanges entre les allergènes et la barrière.
Oui et non. C'est-à-dire que c'est surtout une recherche qui est ce qu'on appelle une recherche fondamentale. Moi, à la fin de mon projet, l'objectif, c'est pas de mettre en évidence un traitement. Ce que je veux, c'est comprendre pourquoi. Déjà, observer ce qui se passe. Est-ce que j'ai un système immunitaire qui va être différemment déclenché? Est-ce que j'ai une fonction respiratoire qui va être dégradée ou pas? Est-ce que mes barrières sont plus ou moins abîmées? C'est qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Donc, c'est du fondamental, j'observe. Mais l'objectif, c'est d'apporter du savoir, en fait, pour d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, créer d'autres projets qui pourront être plus personnalisé en fonction des patients, parce que si chez un patient, je vois que j'ai tel système immunitaire qui est mis en place, telle réponse immunitaire qui est mise en place, je pourrais peut-être remonter l'histoire de son asthme, voire éventuellement mettre des hypothèses sur comment il aurait pu être sensibilisé, et peut-être adapter mon traitement en fonction de ça. En fait, ça me permettrait de mieux connaître l'asthme de mon patient et de pouvoir mieux le traiter. Et ça, c'est l'objectif, c'est d'aller vers de la médecine personnalisée. Donc, ce qui est assez en vogue en ce moment en clinique.
Et pour terminer, vous êtes en troisième année. Vous allez bientôt soutenir. On espère que tout va bien se passer. Est-ce que vous auriez un message à nous faire passer maintenant que vous avez étudié en profondeur votre sujet, que vous avez passé 3 ans en doctorat sur comment on en arrive là, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un doctorat ou de votre sujet de thèse?
Pas de message, il y en a plein. Au bout de 3 ans, on a plein de choses à dire. Je dirais que scientifiquement, ce que j'en retiens, c'est que notre environnement, il est très important. Il influence beaucoup notre vie, il influence énormément notre santé. Et même à petite échelle, c'est bien de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, notamment comme déchets, à ce qu'on peut engendrer. Tout a des conséquences. Donc, faire attention à ce qui nous entoure, à notre environnement. Quand on peut éviter de faire 100 mètres et de prendre la voiture, pour éviter d'émettre des gaz qui pourraient être dangereux, préférer la marche à pied, par exemple, si c'est possible. Être un peu plus responsable et prendre conscience que notre environnement, il dépend de nous. Ensuite, deuxième message, moins scientifique, mais quelque chose que j'ai réalisé pendant ma thèse, je dirais que le mot fort qui me reste, c'est la bienveillance. Moi, c'est un mot que je retiens. Faire une thèse, c'est très difficile. C'est un contexte psychologiquement qui peut être éprouvant pour les étudiants. Mais en fait, même le cursus de recherche, c'est éprouvant, c'est passionnant. Mais il faut prendre conscience que les étudiants thèse, les étudiants master font un travail énorme qui mérite une bienveillance.
Eh bien, restons bienveillants. C'est un beau message pour terminer ce podcast. Merci, Éléonore, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Merci.
C'était Détails de thèse, une coproduction du Labo des Savoirs et du consortium MiBioGate, soutenu par la région Pays de la Loire et ses partenaires. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes de podcast et les articles associés sur mibiogate.univ-nantes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt.